Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Abadi, je suis neuropsychologue à l'hôpital Femme-Mère-Enfant et je travaille également sur le projet Étudis. Donc je m'occupe de faire notamment les bilans et les passations des expériences. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer à quoi sert un bilan cognitif, ses objectifs et les enjeux dans la dyslexie notamment. Donc quand on parle de bilan cognitif, on parle d'évaluation des fonctions cérébrales. Donc ça veut dire par exemple la mémoire, l'attention, le langage ou encore les praxis. Ce bilan, il peut être réalisé par les neuropsychologues qui, eux, sont spécialisés, ils peuvent évaluer un petit peu toutes ces fonctions, mais aussi les orthophonistes qui sont plus spécialisés dans le langage écrit et oral, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens qui sont plus spécialisés dans ce qui est praxie, enfin tout la gestuelle, enfin tout ce qui a rapport avec le corps en lui-même. Alors, les objectifs d'un bilan cognitif, ça peut avoir donc un bilan cognitif peut avoir comme objectif le diagnostic ou en tout cas l'aide au diagnostic parce que le diagnostic, finalement, que ce soit dans une dyslexie ou dans n'importe quel autre dys, en général, il est fait par plusieurs professionnels. Donc, souvent, un bilan orthophonique seul ne suffit pas parce que, comme l'avait expliqué Nathalie ce matin, pour vraiment dire qu'il y a une dyslexie, il faut qu'on puisse exclure, par exemple, un retard mental ou d'autres pathologies. Et là, par exemple, il faudra faire un test de QI et c'est que les psychologues ou les neuropsychologues qui sont habilités à faire ce genre de test. On peut donc aussi, avec un bilan cognitif, essayer de comprendre le fonctionnement cognitif du patient, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qui sont déficitaires, qui ne marchent pas, et les fonctions qui restent intactes, sur lesquelles il pourra ensuite s'appuyer. C'est sur ça qu'on va s'appuyer quand on propose des aménagements. Ou alors, on peut aussi l'aider en faisant une rééducation des fonctions qui sont déficitaires. Alors, pour le bilan dans le cadre du projet Étudis, le diagnostic des participants dyslexiques y était déjà posé en général. Donc nous, on a plutôt orienté le bilan pour essayer de comprendre le fonctionnement cognitif du patient, mais aussi après pour pouvoir proposer des aménagements ou encore des rééducations. Donc voici comment se déroule un bilan en général. On a une plainte qui va amener le patient à consulter, c'est ce qui va motiver la consultation. Ensuite, on va réaliser un entretien, une anamnèse, qui nous permet d'établir un premier contact avec le patient, de le rassurer aussi un petit peu sur ce qui va l'attendre. Ensuite, on fait une évaluation et on propose des objectifs de prise en charge ou des aménagements. Donc là, je vais revenir sur chacune de ces composantes pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe. Donc, la plainte. Souvent, donc la plainte, j'ai dit que c'était ce qui motivait la consultation, mais elle peut avoir différentes origines en fonction de la population avec laquelle on travaille. Donc si on travaille avec des enfants, la plainte, elle va surtout arriver de la part des parents ou des enseignants qui vont alerter la famille ou de l'entourage parce qu'ils se sont aperçus, par exemple, que leur enfant, il avait un retard en lecture, qu'il avait beaucoup plus de difficultés pour apprendre l'orthographe, qu'il était plutôt lent, qu'il comprenait pas forcément les consignes écrites. Quand on s'intéresse plutôt aux adultes, les difficultés elles vont s'exprimer autrement. Donc bien souvent, les adultes, ils ont déjà eu dans leur enfance une rééducation orthophonique. Et donc, ils pensent que leur trouble, il a été plus ou moins rééduqué. Et ils vont mettre des compensations en place, mais ces stratégies de compensation, elles vont être assez coûteuses attention, enfin, cognitivement, elles vont demander beaucoup d'attention. Et du coup, leur plainte, elle est surtout, enfin, souvent, elle est surtout concentrée sur finalement autre chose que la lecture en elle-même. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, voilà, j'ai du mal à me concentrer en cours, je suis très distractive, j'ai des difficultés pour prendre des notes, mais parce que je décroche. J'ai des problèmes d'organisation ou j'ai des problèmes, je suis tout le temps fatiguée. Donc finalement, chez les patients adultes, la plainte, c'est plus le symptôme que la cause réelle, comme si ils avaient un petit peu mis de côté le fait qu'ils étaient dyslexiques et que ils se sont trouvés un nouveau problème. Alors, donc après, une fois qu'on a bien établi la plainte, ça va nous permettre de faire l'entretien qui, lui, va... Pendant l'entretien, on va cibler un petit peu plus précisément des questions pour comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, l'entretien, il nous permet de déterminer l'origine du problème. Donc déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est présent depuis que la personne est toute petite, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été acquis, par exemple, suite à l'apparition d'une épilepsie, d'un traumatisme crânien, etc. L'entretien, il nous permet également de regarder quel est le type de difficultés qui sont rencontrées. Est-ce que ces difficultés, elles sont spécifiques au langage, ou est-ce que elle touche encore d'autres domaines? Donc c'est ça qui va nous permettre de faire la part des choses entre une dyslexie pure, par exemple, ou une dyslexie accompagnée de dyspraxie, de troubles attentionnels ou autre chose, ou peut-être même simplement, finalement, c'était pas du tout une dyslexie, c'était juste un trouble attentionnel, d'accord? Et donc ça nous permet de un petit peu orienter finalement les tests qu'on va utiliser par la suite. Et ensuite, à la fin donc de l'entretien, on va aussi essayer de comprendre quel est l'impact de ces difficultés sur la vie quotidienne, sur les apprentissages et le comportement. Donc est-ce que ça a affecté par exemple l'estime de soi ou des choses comme ça, pour ensuite pouvoir orienter la prise en charge, soit renvoyer vers d'autres professionnels, par exemple des psychologues qui vont... En prenant en compte les difficultés du patient, travailler sur toute cette anxiété, etc. Aussi, on peut faire donc la rééducation et puis les aménagements pédagogiques. Dans le cadre du bilan Étudis, l'entretien qu'on a proposé, c'était donc dans l'entretien qu'on a proposé, il y avait les antécédents du participant. Donc de savoir est-ce que quels diagnostics ont été posés ou pas, est-ce que dans la famille il y a eu aussi d'autres diagnostics, des choses comme ça, quel est le parcours scolaire qu'il a eu, quelles sont les difficultés scolaires qu'il a rencontrées, que ce soit donc au primaire, secondaire, collège ou aussi à la fac. Et puis, quelles sont les stratégies de compensation qu'il a pu mettre en place, que ce soit spontanément ou parce qu'il a eu l'aide de la rééducation orthophonique. Et puis, également, on a posé des questions sur l'attention, donc des questions qui étaient issues d'un questionnaire, de deux questionnaires, pour un petit peu aussi écarter le trouble de l'attention et être sûr qu'on évaluait bien des personnes qui avaient des dyslexies, enfin des dyslexies pures. Ensuite, donc à partir de cet entretien, ça va nous permettre donc de poser des hypothèses sur les difficultés et de choisir des tests adaptés pour pouvoir évaluer les difficultés. Donc l'évaluation cognitive, elle met en évidence le niveau où se situe le déficit. Donc on utilise des tests qui sont normés et standardisés et qui sont issus d'un modèle cognitif qui a été validé. Donc là, dans le cadre de la dyslexie, par exemple, on va utiliser le modèle à double voie que Nathalie vous avait déjà présenté, et puis on va essayer d'évaluer à chaque niveau de ce modèle si les compétences marchent ou pas. Ensuite, donc, voilà, c'est ce que je disais, on évalue chaque niveau impliqué dans le langage écrit pour la dyslexie. Donc on avait la métaphonologie, la lecture et la dictée de mots isolés, la lecture et la dictée de textes. Donc la lecture, ça va être avec ou sans signification, de texte avec ou sans signification. Et puis la compréhension de lecture. Et on peut aussi évaluer les autres composantes qui sont impliquées dans la lecture et dans l'orthographe. On a l'intelligence, on a aussi l'attention et puis la mémoire. Donc ça va souvent être fait par d'autres personnes que les orthophonistes. Alors, ici, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule toutes les épreuves qu'on a utilisées pour le bilan Etudis. Donc c'est un bilan qui est assez long, il dure à peu près 3 heures pour les étudiants dyslexiques, donc il faut bien s'accrocher. Donc ce bilan, il évalue les compétences en lecture, en orthographe, en métaphonologie, et aussi l'attention de haut niveau avec les fonctions exécutives et l'attention sélective, donc c'est l'attention visio-spatiale ici, et on va essayer d'avoir une estimation de l'efficience intellectuelle, donc sachant que normalement pour ça il faut faire un QI, mais le QI dure à peu près 2 heures, donc on a choisi des tests pour un petit peu avoir une idée de leur efficience intellectuelle. Alors je vais essayer de vous montrer des exemples de tests pour que vous rendiez peut-être un peu plus compte de ce qu'on leur demande. Je vais vous montrer des tests de lecture, d'orthographe, métaphonologie, et donc attention aussi. Par contre, je vais pas trop passer de temps sur l'attention visio-spatiale, puisque ce sont des choses que Nathalie vous a déjà un petit peu montré ce matin. Il y avait par exemple le traitement de la structure visuelle et inhibition de détails, donc ça c'est sigle. C'était quand il y avait des grandes lettres constituées de petites lettres. D'accord, donc ça nous permet aussi de regarder ce qui se passe au niveau visio-spatial. Il y avait aussi l'orientation de l'attention spatiale, donc avec l'épreuve visionnaire et audionnaire. Alors, donc, je me dépêche. En métaphonologie, donc, on a les contrepétries. Donc, il fallait ici demander aux participants d'intervertir les sons initiaux de deux mots. Et ça créait du coup deux autres mots qui n'existent pas. Donc ici, on va évaluer ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à repérer chaque son dans un mot. Et puis, on va le faire en calculant le nombre d'erreurs et le temps de réponse des participants. Donc ici, par exemple, si je vous dis les deux mots « manège » et « volcan », donc la réponse qui est attendue ici, c'est « vanège » et « molcan ». Donc on intervertit les deux sons initiaux qui sont le « me » et le « v ». Donc ça donne « vanège » et « molcan ». Et puis souvent, chez les participants dyslexiques, on va avoir des réponses du genre « vaunège » et « malcan ». Donc au lieu d'intervertir uniquement les sons initiaux ici, ils ont interverti les syllabes initiales. D'accord, ils n'arrivaient pas bien à segmenter du coup les sons. Donc pareil pour le deuxième exemple, fourmi et journal, chez les dyslexiques, ça donnait jourmi et fourjal. Donc il y a un J qui s'est un peu promené ailleurs. En orthographe, on fait donc la dictée de mots. On va avoir 3 catégories de mots, les mots réguliers, les mots irréguliers et les mots qui n'existent pas, ce sont les pseudomots. On regarde l'exactitude de l'orthographe et le temps d'écriture. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple pour que vous ayez une idée aussi du type d'erreur qui se fait chez les dyslexiques. Donc la première colonne, ce sont les mots réguliers. La deuxième, ce sont les mots irréguliers. Et la troisième, les mots qui n'existent pas. Alors ici, je vous ai mis les réponses correctes pour les mots qui n'existaient pas. Donc je leur dictais par exemple « ribule ». Et là, ici, la participante a marqué « ripule ». Donc, elle a inversé des sons. Voilà. OK. Hop. Alors, ensuite, pour le texte sans signification, on propose le texte de l'alouette. Donc, c'est un texte qui ne veut rien dire. On demande aux participants de lire le plus rapidement possible en faisant le moins d'erreurs à haute voix. Ça nous permet de donner un âge de lecture. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc, c'est marqué « Sous la mousse ou sur le toit, dans les haies vives ou le chêne fourchu, le printemps a mis ses nids, le printemps a nid au bois. » Donc, vous voyez, ça ne veut absolument rien dire. Et du coup, ici, le participant ne peut pas du tout s'appuyer sur le contexte pour s'aider à déchiffrer le texte. On fait aussi un texte de lecture avec signification. Donc c'est le texte qui est issu du vol du PC. Donc toujours, on demande aux participants de lire à voix haute donc le texte. On regarde le nombre d'erreurs, le type d'erreur et le temps de lecture. Alors, ici par exemple, donc vous voyez, c'est un texte qui raconte un vol de PC dans une entreprise. Voilà. Et puis vous pouvez peut-être voir aussi... vous pouvez voir au début du texte, il y a des mots qui n'existent pas. Par exemple ici, face plioro, gatribusseur. Donc ça nous permet aussi de typer un petit peu le type d'erreur pour voir si c'est sur des mots qui n'existent pas qui vont accrocher. Est-ce que c'est sur des mots qui sont irréguliers? Voilà, ça nous permet d'avoir une idée. Donc, à partir toujours de ce texte, on va poser des questions pour évaluer la compréhension en lecture. Donc, on va demander aux participants de nous rappeler avec le plus de détails possible l'histoire qu'il a lue. Donc, on met un point pour chaque élément qu'il a pu rappeler. On va poser des questions ouvertes. Donc, pourquoi le détective parle à l'informaticien? On a un QCM. Choix des titres, donc ici on propose plusieurs titres et ils doivent dire quel est le titre qui correspond au texte, au sens du texte. Et puis recherche d'informations, donc ils ont des informations à retrouver, ils doivent dire à quelle ligne du texte c'est présent. Ensuite, au niveau de l'attention, donc ce sont des tests informatisés, on calcule les temps de réponse, l'écart type, le nombre d'oublis, le nombre de fausses réponses. Et on va avoir donc une évaluation de l'impulsivité. Donc c'est la capacité d'inhibition finalement. Est-ce qu'ils sont capables ou pas d'inhiber leurs réponses? On leur montre deux types de croix. Ils doivent appuyer uniquement quand ils voient une croix. Et le plus vite possible. Donc à chaque fois, par exemple, on va leur montrer beaucoup la croix avec le multiplié, et puis tout d'un coup, on leur montre le plus, hop, il faut qu'ils s'arrêtent. Mais voilà, ça demande d'inhiber la réponse. Ensuite, on a aussi un test de distractibilité. Donc c'est le même principe que le test d'inhibition, sauf que en plus d'avoir donc ces deux types de stimuli, on va avoir des images qui vont apparaître et qui vont venir les distraire. Donc il faut bien sûr qu'ils s'empêchent de regarder ces images, parce que sinon ils n'ont pas le temps de voir quels étaient les stimuli qui sont apparus. En attention soutenue, on évalue la capacité à maintenir l'attention sur un temps prolongé. Donc là, pendant 15 minutes, ils font toujours la même tâche. On leur montre des figures, comme vous le voyez là, qui apparaissent les unes après les autres. Et dès que... une même figure apparaît deux fois de suite, il faut appuyer le plus vite possible. Mais ça dure 15 minutes, donc c'est assez long de rester concentré jusqu'au bout. Assez difficile. Et enfin, on a donc après ça, on peut avoir les objectifs de la prise en charge. Donc on va dégager les points forts et les points faibles du patient. On va, donc pour pouvoir lui dire, voilà, c'est vrai qu'en lecture, sur tel ou tel aspect, t'es pas très fort, mais... sur cet aspect, par exemple en attention, en intelligence, voilà, et ben t'es tout à fait capable, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est sur ça que on va s'appuyer pour pouvoir proposer une prise en charge, donc la rééducation ou les aménagements pédagogiques. À la fin de tout ça, on va également faire un compte-rendu écrit du bilan qui sera adressé aux patients, aux parents, aussi aux professionnels de la santé, mais il est aussi possible que les enseignants y aient accès si les patients sont d'accord. Donc, bon, si jamais il veut pas avoir, enfin, il veut pas que les enseignants voient toute l'historique, toute sa vie, tout ça, ou la pathologie exacte qu'il a, en général, on met sur une autre, une fiche à part, les aménagements qu'on préconise. Et ça, peut-être que vous pouvez demander, bah, s'il a, est-ce que vous pouvez nous la donner? Comme ça, nous aussi, on peut adapter nos cours par rapport à ça. Je vous remercie de votre attention.